C'est un podcast Vivre FM. Arbi Madage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Bretagne, c'est bien ça ?
Je suis à Rennes, oui.
À Rennes, voilà. On n'a pas pu vous avoir avec nous dans ce studio. Vous êtes en Bretagne, c'est là que vous avez conçu votre jeu. Pourquoi ce jeu ?
J'ai commencé à créer ce jeu quand j'étais placé à isolement. C'est oui. Une histoire personnelle, en fait. J'ai eu cette réflexion sur les préjudices que j'ai pu causer à ma famille, à mes proches, à mes enfants, pour toutes ces années d'absence. Et surtout, je voyais la détresse des quartiers mineurs dans certains prisons, parce qu'il y a les majeurs, mais certains étages, il y a les mineurs aussi. Donc je voyais un petit peu leur souffrance. Et je me suis dit, il faut que je partage malheureusement cette expérience en milieu carcéral avec les jeunes.
Oui, voilà. Oui. Vous étiez majeur à l'époque, vous n'avez pas fait de prison plus jeune.
Oui. Si. Non, j'ai 42 ans, je suis entré à 32.
D'accord, oui. Ouais. Donc vous aviez déjà une maturité quand vous étiez en prison. Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas? Comment c'était là-bas? Qu'est-ce qui en ressort?
Qu'est-ce qui en ressort? Il y a beaucoup de personnes qui sont indigentes, beaucoup de personnes qui prennent des médicaments. Et moi, surtout, ce que je voulais éviter, c'est de faire souffrir ma famille. Donc,
oui.
J'ai concentré toute mon énergie et je me suis dit, allez, malheureusement, j'ai déconné, c'est arrivé. Il faut faire tout pour sortir au plus vite, en fait.
Oui. Alors, c'est 7 ans que vous avez passé en incarcéré. Est-ce que ça a été en une fois ou en plusieurs fois?
En une fois.
D'accord. Et donc, vous avez connu plusieurs endroits d'incarcération. Comment ça s'est passé?
J'ai connu plusieurs établissements de l'ouest de la France.
D'accord.
Vous pouvez citer si vous voulez.
Oui, oui, vous pouvez.
J'ai commencé à Rennes, ensuite Angers, Caen, Lorient, Brest, Le Havre et Rennes.
Oui.
Je tiens juste à préciser, ce n'est pas parce que j'ai eu un mauvais comportement, c'est que l'administration pénitentiaire avait décidé de la sorte. En fait.
Oui, oui. Donc vous comprenez cette incarcération, je ne vous entends pas extrêmement bien. C'est ça ?
Vous m'entendez pas bien ?
Je vous entends parfois pas très très bien. En fait, cette incarcération, vous la comprenez ou pas ?
Ah oui, bah oui. Si j'ai réussi à tourner la page, c'est-à-dire que oui, voilà, c'était tout à fait mérité.
Oui.
Donc, j'assumais mes actes, voilà.
Oui, oui. On va peut-être faire un petit peu le parcours avant d'en venir au jeu, comment on joue, etc. C'est un jeu qui prévient des plus jeunes pour entrer dans la délinquance, ce que vous avez fait malheureusement quand vous êtes arrivé en France. Votre parcours, vous êtes albanais à l'origine ?
Oui, je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans, en 1996. Je ne parlais pas un mot français, je n'avais pas de diplôme à l'époque. Et je rêvais de devenir joueur de foot professionnel.
Oui, vous aviez les compétences et c'était votre objectif.
Oui, c'était mon objectif. J'étais déjà international espoir et professionnel à 16 ans en Albanie.
Oui.
Certains vont dire que ce n'est pas le même niveau, mais bon, nous, c'était un rêve quand même. Je me suis inscrit dans un club connu en Bretagne. Je faisais partie de l'équipe B et C. Et 4 ans après, j'ai eu une grave blessure au genou, donc ce rêve a pris fin.
Oui.
Du coup, je me suis retrouvé sans papier, je me suis retrouvé sans diplôme, avec un français très moyen. Et j'ai traîné à l'époque avec des personnes du milieu des Albanais, je vais le dire, parce que je l'ai déjà dit, et qui étaient déjà ancrés dans le trafic.
Oui.
Et voilà, un jour, on m'a proposé si je pouvais vendre 200 grammes de cocaïne. Je savais que je pouvais faire de l'argent avec, mais je n'avais pas un client pour le vendre.
Oui.
J'ai dit oui, sans réfléchir, sans prendre en compte les conséquences. Je n'ai pas pensé à ma famille, donc j'ai commencé à trafiquer.
Oui. Et votre famille, elle était encore en Albanie ou elle était en France?
Non,
il y avait qui avec vous?
Je suis arrivé avec ma famille.
D'accord, oui. Mais vous vous êtes retrouvé à la rue à l'issue de cette blessure au genou qui marquait la fin de votre carrière footballistique?
À la rue, pas vraiment, parce qu'on avait un hébergement quand même, on était hébergé. Mais j'avais pas de papier, je pouvais pas travailler. Du coup, moi j'ai obtenu mon premier titre de ce tour en 2002.
Mais c'est fou, vous aviez pas de papier alors que vous étiez sur un club breton, un club français,
oui,
officiellement.
Oui. Et ce qui s'est passé, quand ils se sont rendu compte que je jouais sans assurance et sans papier, ils ont paniqué en fait. Et ils ont fait toutes les démarches auprès de la préfecture.
Oui.
Donc oui, c'était une erreur parce qu'au début j'avais présenté un récépissé, mais pour eux ils ne sont pas rendu compte en fait que le récépissé était périmé depuis des années.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, c'était la panique totale, quoi.
Oui. Et vous avez eu des papiers rapidement après cette prise en compte?
Comme je vous ai dit, le premier titre quoi, de ce jour, je l'ai obtenu en 2002. 10 ans après mon arrivée en France et 2 ans après ma blessure, ma fin de carrière.
Oui, ça vient tard et ça explique peut-être en partie cette entrée dans la délinquance puisque vous n'aviez pas possibilité de travailler ailleurs.
Sincèrement, je ne vais pas me cacher derrière ça parce que moi, les faits remontent de 2006 à 2008. Entre-temps, je travaillais pas mal. Entre-temps, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. C'est l'entourage, en fait. Moi, c'est l'entourage qui m'a fait tomber dans la délinquance.
Oui, c'est l'entourage. Et alors, vous savez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi les jeunes, aujourd'hui, tombent aussi dans la délinquance? Est-ce que c'est la même raison?
Écoutez, moi, je constate tous les jours auprès des jeunes, parce que j'interviens un peu partout en France, avec ce jeu. Déjà, ils se font manipuler par les gros dealers, comme quoi ils sont mineurs déjà, et certains ils sont mineurs, comme quoi ils risquent pas grand-chose. Alors c'est pas vrai, le code pénal de mineurs existe, pour les mineurs existe, et la prison pour mineurs aussi. Ils pensent qu'ils vont faire de l'argent rapidement.
Oui.
Et moi, la réponse que j'ai, c'est que oui, mais c'est de l'argent rapide. Je dis, mais non, les gars, faites des études et vous allez avoir une belle vie.
Mais oui.
Ah non, mais les études, dans 10 ans, dans 7 ans, non, là. En fait, c'est l'argent.
Oui, c'est l'argent rapide.
L'argent facile et rapide.
Oui, oui. Et alors, est-ce qu'il y a une morale? Est-ce que les gens qui rentrent là-dedans ont moins de morale que d'autres? Comment on peut expliquer ça également par... c'est aussi une question d'éducation, vous voyez ce que je veux dire?
Qui rentre dans le trafic?
Qui fait qu'on va rentrer dans ce trafic, sachant que c'est illégal, sachant que c'est la drogue, ça peut tuer, etc.
En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que moi, à l'époque où je trafiquais, il n'y avait pas les terrains de deal. Ça n'existait pas.
Oui.
Et je suis sorti de prison. Dans chaque quartier à Rennes, il y a un terrain de deal maintenant.
Oui.
Et je constate de plus en plus que des gamins de 12-13 ans font les guetteurs dans ces terrains de deal.
Oui.
Donc, à cet âge-là, ils sont inconscients, ils sont jeunes, ils sont petits, ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait.
Oui, oui.
Et je ne peux pas dire que c'est un code moral ou des gamins de 17, 18 ans, oui, on me le dit, il faut qu'on passe par la case prison parce qu'on va devenir de vrais caïds. Mais des gamins de 12, 13 ans, je ne peux pas dire ça en fait.
Oui, oui.
C'est l'inconscience.
Et justement, ces jeunes de 12, 13 ans que vous voyez qui font le guet, est-ce que les parents sont au courant? Est-ce que les parents prennent conscience de la chose?
Ce qui se passe, c'est que les personnes, les guetteurs et les dealers, ils n'iront jamais dans leur quartier, en fait. Ils vont faire le guetteur dans un autre quartier. Et les pauvres parents, ils sont toute la journée au travail, ils rentrent le soir, ils pensent que leurs enfants allaient à l'école.
Oui.
Jusqu'au premier signalement, au deuxième, au troisième, c'est déjà trop tard, parce qu'il est déjà... Il a déjà cette envie de gagner de l'argent facile, parce qu'il a déjà goûté.
Oui.
Donc voilà, c'est moi, sur un groupe de 40 collégiens que j'interviens depuis un an dans un collège à Rennes, il n'y a que deux qui continuent à faire des conneries, en fait.
Parce que vous êtes intervenu?
C'est pas parce que je suis intervenu, il y a une prise de conscience en même temps, ils ont compris ce que c'est vraiment la prison.
Oui.
Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont entrées pour 6 mois et sont sorties 4 ans après. Au début, ils ne me croyaient pas. Et quand j'ai commencé à déballer le jeu, on a commencé la partie à jouer ensemble. Et ils ont compris vite que les fautes disciplinaires en prison sont punies 3 fois. Des actions disciplinaires, des retraits, des réductions de peine. Et des actions pénales, si les faits sont graves.
Oui.
Ça va vite.
Oui, il y a cette image dans l'esprit des gens que, effectivement, quand on fait du trafic de drogue, au moins quand on débute, on n'est pas sujet à de la prison.
En fait, ce que j'entends et ce qui sort souvent maintenant, c'est que les mineurs ne sont pas touchés par la loi, alors que c'est faux.
C'est faux.
En fait, ils se font tellement manipuler, tellement avoir par les gros, déjà honte à eux, qui embauchent des gamins de 12-13 ans pour faire du trafic, déjà. Et là, ils se font manipuler, mais voilà.
Oui.
Les pauvres enfants et pauvres... Rien.
Et vous avez justement, vous avez pu voir, vous avez pu prendre connaissance de jeunes de 12-13 ans qui sont allés en prison parce qu'ils se sont fait prendre justement en train de faire le guet?
Non, pas 12-13 ans, pas cet âge-là, mais 16-17, oui.
Oui, et c'est ça va jusqu'à combien de mois de prison? Enfin, ça va jusqu'où?
Non, ça dépend, parce qu'en fait, qui dit terrain de deal dit la violence qui commence à remonter. Voilà, maintenant, il y a des bagarres presque tous les jours, ils se tirent dessus pour 200, 300 euros, des coups de couteau trop faciles. C'est du grand n'importe quoi, et c'est ça qui risque 10 ans de prison derrière.
Oui, c'est
Ah, il y a ça.
l'engrenage. L'engrenage, c'est pas seulement vendre de la drogue à quelqu'un, c'est aussi la violence tout autour.
Y a toute la violence, en fait, la délinquance engraine la violence derrière. Et c'est certain. Donc, il faut qu'ils défendent un territoire. Ils se font frapper déjà par les gros, les gérants, etc. Parce que parfois la police arrive à les arrêter. Et donc, ils ont mal fait leur travail. Donc, c'est un travail à plein temps pour eux. Et parfois, je les chambre. Je dis, mais les gars, vous faites avoir parce que vous touchez même pas le SMIC. Vous travaillez 2 heures par jour. 30 jours sur 30 et vous touchez 1 500 euros. Donc, si vous faites le calcul, vous gagnez 600 euros par mois, quoi.
Eh oui, c'est pas beaucoup.
Mais c'est la vérité.
Oui.
C'est la vérité. Ils cotisent pas pour la retraite. Ils sont en train de gâcher leur vie.
Ah ben oui. Oui.
Et bon, le discours que je tiens, c'est un discours vrai avec eux. Je leur parle comme des petits frères, parfois. Et moi, ce que je veux, c'est que ces gamins-là, ils continuent à aller à l'école ou faire du sport, mais pas sur le terrain de deal.
Bien sûr. Oui, et alors vous allez dans les écoles, vous allez sensibiliser, c'est ça? Et comment vous procédez? Comment ça se passe?
J'interviens beaucoup avec les maisons de quartier, les collèges, les lycées. Ça commence à ouvrir les portes, les lycées déjà. Les écoles de la deuxième chance. J'interviens beaucoup dans les centres de formation.
Oui.
J'interviens beaucoup avec les éducateurs spécialisés aussi. Donc ce que je leur dis, c'est que voilà, je parle de mon parcours déjà, 17 ans, oui, 17 ans. Mais c'est bizarre en fait, le monde a changé, j'ai l'impression, c'est que, est-ce que vous avez fait de l'argent? La deuxième question, c'est direct. Vous avez mis combien d'argent de côté? Ben, zéro.
Oui.
Zéro, parce que, voilà, il y a eu toutes ces années de prison, il y a eu les interpellations, et tout ce qui a suivi, les saisies, etc. Donc tu sors, j'ai... Moi, j'ai pris un microcrédit chez Adi pour sortir mes 100 premières boîtes de jeu.
Oui.
Et donc, en fait, ils sont dans un rêve, en fait. Ils pensent qu'ils vont faire de l'argent avec le stup. Voilà.
Oui, et c'est pas le cas. Finalement, il y en a peu qui font de l'argent avec, qui aient réussi à s'enrichir avec ça.
Un jour à l'autre, on connaît l'issue, hein, c'est la prison. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus les peines sont lourdes. Donc,
Oui.
voilà, il faut assumer ces peines-là. Hein.
Et vous avez fait 7 ans, c'est beaucoup, hein.
Non, en premier instant, j'avais pris 9 ans, 6 ans de sûreté.
Oui.
Et donc, par la suite, la peine était descendue à 9 ans, et j'ai pris une deuxième peine de 3 ans. Donc, ça m'a fait 9 ans en tout, et j'ai effectué 7 ans et un an d'isolement.
D'accord, ouais.
Un an d'isolement, parce que j'ai eu le malheur de craquer pour une surveillante, elle aussi, donc ça n'a pas plu à l'administration pénitentiaire, donc. C'est pour ça que j'ai eu tous ces changements de prison, en fait.
D'accord, ouais. Et vous êtes sorti comment de cette
En fait, moi,
incarcération très longue?
je suis sorti, manque de chance, je suis sorti le 26 mars de l'année dernière en plein confinement.
Ah oui, c'était
Là,
mal, oui, c'est mal tombé.
je le dis chaque fois, à chaque intervention, et je fais rigoler les gens. Ils me disent, mais t'as pas vraiment de chance. Si, si, j'ai de la chance, parce que je suis sorti indemne. J'ai participé à ma propre insertion. Moi, je suis sorti. En fait, il n'y avait pas de travail à l'époque. Je suis sorti sans travail et sans domicile. Heureusement que j'avais mes parents pour m'accueillir. Et du coup, voilà, j'ai tout fait pour sortir mon jeu. Je me suis dit, il se passera ce qui se passera. Il faut que je sorte le jeu. Une fois le jeu est sorti, la demande était autre. Les éducateurs spécialisés, on m'a dit, mais écoutez, nous, le jeu, c'est super. On manque d'outils pédagogiques comme ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est toi avec ce jeu.
Oui.
Et donc, du coup, je me suis découvert un métier, je suis devenu intervenant, j'ai créé ma société. Et maintenant, je parcours la France où on fait appel à moi pour sensibiliser les jeunes, en fait.
Voilà, et vous apportez votre jeu RPS, remise de peine supplémentaire, et vous
Oui.
jouez avec les ces jeunes?
La journée d'intervention, c'est mon parcours, mon vécu. Comment je suis tombé dans la délinquance, que je vous ai dit, il y a une partie jeu et surtout, c'est la partie débat qui est le plus intéressant.
Oui.
à la fin, c'est là qu'on remarque vraiment la prise de conscience.
Oui. Le fait de vous voir, vous, c'est quelque chose qui fait que ces jeunes comprennent mieux les choses plutôt qu'un éducateur qui va leur expliquer que la violence, ça mène à la prison.
Les éducateurs, ils font de super travail, il ne faut pas les laisser de côté, ça c'est sûr, mais ce qu'ils veulent, les gens d'aujourd'hui, c'est des histoires vraies. Moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée en mois de décembre l'année dernière en région parisienne, dans un centre éducatif fermé.
Oui.
Un jeune homme qui était enfermé pour double tentative d'homicide ou d'assassinat. Et il m'a dit, Arby, je me rends compte, si je continue, je vais gâcher ma vie. Il m'a dit, ça va trop vite. Il m'a dit, merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'est des histoires vraies, c'est ce qu'on veut. Tu ne fais pas de la morale. Tu nous parles comme des petits frères. Et là, ça va me rester à vie, c'est ce qu'il m'a dit. Il était en face de moi lors du repas du midi, du déjeuner, en fait, parce que je suis passé toute la journée là-bas. Et il m'a pris de côté quand il m'a dit ça, mais... Voilà, j'étais du doigt de pleurer, quoi.
Oui.
Je vous dis la vérité. C'est des petits gamins de 16, 17 ans.
Oui.
Donc,
et qu'est-ce que vous conseillez justement de dire à quelqu'un, on voit un jeune, un enfant, un cousin, un neveu qui est en train de passer dans la délinquance, qu'est-ce que vous conseillez à, vous vous dites qu'il ne faut pas faire la morale?
Mais moi je peux dire juste, sans faire la morale, je lui dis, et ce que se fait, c'est que la délinquance ne paye pas, tout simplement. Les préjudices sont énormes, c'est la famille qui va souffrir, la mienne elle a souffert pendant toutes ces années. En train de me courir derrière au parloir.
Oui.
J'ai pas vu mes enfants grandir.
Oui.
Et eux, ils vont gâcher leur vie parce que moi, je considère, et c'est la vérité, que chaque personne et chaque jeune a des talents cachés en eux, en fait. Ils ont l'avenir devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'enfermer dans un terrain de deal en train de trafiquer pour 50 euros par jour, tous les risques qu'ils prennent et tous les préjudices qu'ils vont couvrir à leur famille.
Oui.
Donc voilà ce que je lis.
Oui. Votre famille, elle a tenu le coup, elle a tenu le choc derrière vous sur ces années d'incarcération?
Écoutez, j'ai tout dit jusqu'à présent, je vous dis encore. Donc, quand je suis sorti de prison, c'est ma soeur qui m'a dit que ma mère, parfois, est entrée le soir chez elle après avoir parcouru 700 km pour venir me voir au parloir, sous la canicule, et est tombée par terre, quoi.
Oui.
Donc voilà. Moi, on me disait pas quand j'étais incarcéré, mais quand je suis sorti, ma sœur m'a tout raconté.
Oui. Et quand vous étiez incarcéré, vous saviez déjà que vous alliez complètement arrêter, ou vous avez pris conscience, enfin, vous avez pris cette décision à la sortie? Ça s'est passé comment?
Je vais être honnête avec vous, les trois premières années, je voulais pas arrêter parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir?
Oui.
Quand j'étais placé à isolement, parce qu'en fait, en prison, on va dire ce qu'il y a, en prison, il y a tout genre de personnes, en fait, incarcérées. Je ne vais pas tirer l'école du crime parce que voilà, je suis désolé, certains disent ça, mais c'est trop facile en fait. Il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent. Et quand j'étais passé vraiment à isolement, c'est là que j'ai eu cette réflexion en fait. Je me suis dit non, plus jamais ça. Plus jamais ça, je dis quoi qu'il arrive. Déjà, les peines, ils vont être au double. Et surtout, je ne pouvais plus jamais, j'allais faire souffrir ma famille.
Oui. Et oui, l'isolement, ça signifie plus de parloir. Ça signifie quoi exactement? Vous êtes placé dans une cellule?
L'isolement, c'est j'étais coupé de tout lien avec les autres détenus, en fait.
D'accord.
Il n'y avait personne.
Donc vous voyez uniquement les surveillants?
Que les surveillants,
ouais.
pour les mouvements.
Oui.
Pour les sortir une en promenade ou aller à la bibliothèque et toutes les activités en mode solo.
C'est pas déprimant ou ça doit peser sur le moral?
Il y a beaucoup qui ont laissé leur vie, hein.
Oui.
C'est la vérité. L'isolement, même les juges d'instruction le disent, l'isolement est fait pour détruire un homme. Donc, moi, j'avais juste pour ambition de ne pas prendre du poids. C'est parce que j'avais,
oui.
j'avais des collègues à côté qui avaient pris des 10, 15 kilos hein, sur une période d'un an.
Oui.
Et moi, je ne voulais pas prendre du poids.
Oui. Mais ça, c'est une idée qui vous a fait tenir aussi.
Mais surtout, c'est le jeu qui m'a fait tenir.
Oui.
C'est le jeu. Sincèrement, c'est le jeu parce que j'écris tous les articles que j'ai choisis à la main. Et en sortant de prison, je me suis rendu compte qu'il suffisait juste de faire un copier-coller.
Oui.
Mais bon. Et moi, ça m'a... un article de code pénal, il fait entre 10 et 15 pages. Donc, et j'ai travaillé les règles du jeu. C'est un travail de 2 ans et demi à peu près.
Oui. Et tout ça, ça a été en prison? Vous avez tout fait en prison?
Oui, j'ai tout fait en prison.
Oui.
Même le brevet, la juge de l'application des peines m'a accepté une permission de sortie d'une journée pour aller déposer le brevet.
Oui, oui. Donc c'est vraiment un jeu d'une personne qui connaît les choses, qui a été conçue en prison. Enfin, c'est vraiment un jeu qui parle bien avec honnêteté de la prison.
C'est un jeu basé sur le système du judiciaire et le milieu carcéral.
Oui.
On tire une carte, on prend connaissance du délit qu'on a commis, de la peine encourue et de l'amende qui va avec.
Oui.
Tout simplement. Par exemple, je pose une question même à certains éducateurs. Pour le délit de discrimination, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que dit le code pénal? Amende, 4 mois, 3 mois, 6 mois, 2 sursis. Non, le code pénal dit que le délit de discrimination est puni de 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Et quand je dis ça, ah bon, 3 ans? Ben oui.
Oui.
Le code pénal, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le code pénal français qui dit que la discrimination est punie de cette peine.
Oui.
Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs peines d'enregistrer et diffuser des images de violence, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est 5 ans de prison. Et oui. un jeune, il m'a dit, est-ce que je peux aller chercher mon téléphone parce que je n'ai pas trop Facebook. Direct.
Oui.
Donc oui.
Oui, c'est un jeu où on apprend des choses, on tire une carte, on voit ce qu'on risque si on commet tel délit, tel crime, et c'est différent pour les gens.
Chacun se met de la peau d'un prisonnier, en fait. Il prend une peine, il note sur sa case la date de fin de peine, il fait les calculs de remise de peine automatique, parce que jusqu'à présent, chaque détenu bénéficie automatiquement des remises de peine.
Oui.
Monsieur Dupond-Moretti va changer la loi à partir de 2023. Donc, ça le regarde. Mais je ne vois pas comment il va aider le détenu à sortir au plus vite.
Oui.
Et donc, chaque joueur se met là dans la peau d'un détenu. Il parcourt le parcours. Où j'ai présenté 52 cases, comme les 52 semaines de l'année. Et chaque case est présentée par l'activité proposée en détention.
Oui.
À la fois, il y a les cases vertes pour cumuler les remises de peine supplémentaires, si on fait des efforts. Par exemple, si on travaille, si on obtient le code de la route, ou si on suit une formation professionnelle, donc on bénéficie de remises de peine supplémentaires, vu le nom du jeu. Mais il y a des cases rouges aussi, parce que les fautes disciplinaires et malheureusement les tentations existent en prison, comme les téléphones portables, les trafics, les violences, etc.
Mmh. Et vous aviez un téléphone quand vous étiez en prison?
Au début de ma peine, oui. J'ai pris 6 mois ferme, je ne sais plus jamais.
Oui.
3 mois pour téléphone et 3 mois pour recel.
Oui.
Recel, c'est un objet interdit en prison, je ne sais plus jamais.
Oui. Et donc finalement, il y a eu du positif en prison. Vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez créé ce jeu. Et aujourd'hui, vous êtes lancé sur la prévention, l'aide aux autres pour qu'ils ne deviennent pas délinquants.
Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, je vous dis la vérité, je suis chef d'entreprise et je compte recruter un ancien détenu dans chaque région de France pour qu'il fasse la prévention comme moi.
Oui.
Je ne peux pas être partout à la fois. Je vais participer à sa réinsertion et parce que j'estime que quelqu'un qui fait de la prévention pendant 1 an, 2 ans, ça y est, il a tourné la page définitivement avec la délinquance. Et surtout, je suis la preuve vivante qu'un ancien détenu, il a cette légitimité de faire ce genre de travail auprès des jeunes.
Oui, effectivement, on va l'écouter. On va l'écouter plus qu'un policier qui vient faire de la prévention, j'imagine.
Ah bah écoutez, les codes avec les policiers, ils ont changé. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent plus voir du bleu.
Oui, ça a changé depuis l'époque où vous étiez plus jeune, où vous êtes entré en délinquance. Ça a évolué.
Non, à l'époque, non, on se montrait pas à l'époque. Non, ça n'est rien du tout. Moi, comme je vous ai dit, c'était... Ma carrière de trafiquant a pris fin en 2008 et du coup, nous, il n'y avait pas ces codes-là. On n'allait pas défier la police. Là, les gens d'aujourd'hui sont là en train de monter les doigts d'honneur, les caillasser les voitures de police qui passent devant les quartiers, devant les terrains. C'est fou quand même.
Oui. C'est
incroyable.
Oui.
J'ai vu ça, mais je suis resté bloqué, je suis resté scotché. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Oui, ils sont en train de défendre leur terrain, mais la police, ils doivent faire son travail aussi.
Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ces situations, selon vous?
La prévention dans les écoles. Mmh. Moi, quand les gamins, ils me disent, mais c'est ça qu'il faut qu'ils nous inscrivent dans le parcours scolaire. On n'a jamais fait ça, nous.
C'est les réactions des gamins, justement, que vous voyez?
Mais c'est la vérité.
Oui.
La réaction des gamins. Ils me disent, il nous faut faire des trucs bizarres. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut comprendre. On veut comprendre où on met les pieds, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est bien de dire à quelqu'un, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que ça, c'est bien, ça, c'est mal, par exemple. Mais si on n'explique pas.
Oui.
Voilà, c'est comme un gamin, on l'emmène en prison, on enferme, on lui fout encore plus la rage. Alors, si on accompagne, si on commence par l'accompagner pour lui expliquer qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, c'est notre façon de travailler.
Oui, et c'est ce que vous faites, et ce jeu vous y aide. Alors ce jeu, vous le vendez séparément ou il n'y a pas forcément, vous n'êtes pas forcément présent pour y jouer?
En fait, le jeu... C'est un support pédagogique, c'est un support tout simple pour créer des rencontres.
Oui.
Le jeu, c'est un support que j'utilise. Pour vous dire la vérité, Sergi Pontoise, les éducateurs spécialisés, ils ont acheté 6 boîtes de jeu hier.
Oui.
Et en mois de janvier, j'interviens pour former les équipes pour qu'ils puissent utiliser le jeu avec les gamins.
Très bien. Donc ce jeu, il est diffusé, il n'est pas diffusé pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est diffusé pour un travail éducatif.
Écoutez, une anecdote. On m'a acheté 3 boîtes de jeu en Belgique, une en Luxembourg et une en Suisse, alors que c'est même pas le code pénal.
Ah ben oui.
C'est pas le même code pénal, c'est par curiosité. Oui. Et on m'a acheté des boîtes de jeu, on m'a même appelé, on m'a dit est-ce que ça vous intéresse de faire le jeu en flamand j'ai dit bah, écoutez, ça m'intéresse, mais oui. Moi je fais pas 7 ans de prison en Belgique pour comprendre le système carcéral belge.
En tout cas, ça marche, votre jeu. Donc, votre entreprise, vous en êtes où exactement? Vous l'avez créé quand et là, en 2021, fin 2021, vous en êtes où?
J'ai commencé le 1er juillet de l'année dernière en micro-entreprise.
Oui.
Et j'ai sorti le jeu le 27 juillet.
D'accord.
Et là, je vous remercie, la presse, ils sont tous déplacés.
Très bien, oui.
J'ai pas compris, j'ai dit, écoutez, je m'y attendais pas. Il me dit, bah attends, on parle de Covid depuis 2 mois, il y a un truc qui sort du quotidien, on a tous sauté dessus, quoi.
Oui,
donc,
puis
ça m'a beaucoup aidé.
C'est positif, votre parcours est positif.
Oui, et donc moi ça m'a beaucoup aidé. Et cette année, je suis passé en société parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai d'autres projets. Il y a un autre jeu que je vais sortir dans 15 jours qui s'appelle Terrain de Ville, justement.
Oui.
Là, ça touche vraiment la problématique.
D'accord, donc le jeu il est conçu, il y a juste à le sortir, à le vendre, c'est ça?
Non, c'est l'imprimeur pour l'instant.
D'accord. Et ça parlera de quoi, de deal, enfin, j'imagine. Mais...
Non, je fais pas la publicité des trafics. Ça parle surtout des préjudices qu'on peut porter aux consommateurs pour commencer.
D'accord.
Parce que voilà, on sait pas ce qu'on vend. Le consommateur, s'il a pas d'argent, il va faire quoi? Il va agresser quelqu'un d'autre, il va voler, il va commettre d'autres délits.
Oui.
Deuxième chose, les terrains de trafic à long terme. Ça paye, non, ça paye pas. C'est toujours la police qui a le dernier mot, même si les enquêtes, ça dure parfois 1 an, 2 ans, parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs. Mais la casse présent est toujours là, quoi. Donc, c'est dans à peu près la même chose dans la prévention. Allô?
Oui, oui, je vous écoute. Très bien. Et donc, ça sort dans 2 semaines, ce nouveau jeu. Voilà. Et RPS, remise de peine supplémentaire, c'est déjà sorti et vous le vendez, on peut le trouver, où peut-on...
On peut le trouver sur le site rps-lesjeux.fr, j'ai créé ma boutique en ligne.
Oui, très bien.
Donc, on peut le trouver facilement, on peut commander facilement, je prends en charge la livraison par chronoposte en 24 heures.
D'accord, et là vous êtes en phase d'embauche de nouvelles personnes pour faire de la sensibilisation.
Oui, je suis en train de voir avec pas mal d'associations déjà, s'il y a des personnes avec les critères que je cherche. C'est-à-dire quelqu'un qui a un peu de vécu comme moi, au milieu carcéral, et qui a vraiment envie de s'en sortir et qui a vraiment des messages à passer.
Oui. C'est facile à trouver?
Sincèrement, non.
Oui.
Sincèrement, non, parce que voilà, les personnes qui ont déjà envie d'être insérées sont déjà insérées.
Oui.
Ils ont déjà un travail. Les autres personnes, il faut de toute façon... Si on veut, on trouve toujours. Donc, pour l'instant, c'est juste la première étape, prise de contact avec les associations.
D'accord. Mais très bien. On souhaite que vous trouviez ces personnes qui vont vous aider, qui vont faire de la sensibilisation. C'est important pour prévenir l'entrée en délinquance des jeunes ou des moins jeunes. Alors, vous avez reçu le prix Rebond du concours Créadi 2021.
Oui. Je suis lauréat national du concours Créali.
Oui.
Comme quoi, parfois, le destin est... J'ai commencé cette aventure avec ADIS, l'association ADIS, c'est eux qui m'ont monté le dossier, monté le projet, c'est eux qui m'ont créé le micro-entreprise.
Oui.
Ils m'ont aidé, surtout au début, dès ma sortie de la prison. Et par la suite, j'ai gagné le concours quand même.
Oui, c'est bien.
Oui, c'est une reconnaissance. Je les remercie, je les remercie vraiment. Et je suis toujours en contact avec beaucoup de personnes. Donc voilà, ça prouve aussi qu'il y a une reconnaissance derrière, que le travail paye et c'est reconnu, quoi.
Oui, le prix, ce concours Crédit 2021 qui récompense des petits entrepreneurs locaux engagés pour l'emploi, l'inclusion et l'environnement. Et vous, vous êtes engagé justement pour l'emploi et pour l'environnement aussi, puisque vous produisez votre jeu localement.
Moi, je produis mon jeu à Rennes. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom.
Si, si.
C'est l'imprimerie Microlinx.
Oui.
Local, breton. La mise en boîte, j'ai confié à l'atelier d'insertion PRN, qui oui. Envoie des enfants détenus hommes et femmes. Pour chaque boîte vendue, je donne une somme de l'argent à une autre association qui s'appelle Enjeux d'enfants, qui accompagne les enfants des couples séparés au parloir.
Oui.
Parce que ça me tenait vraiment à cœur. J'ai vu tellement de personnes souffrir parce qu'ils ne voyaient plus leurs enfants.
Oui.
Là aussi, et surtout avec grâce au TEDx Rennes, j'étais intervenant au TEDx Rennes cette année, au mois de septembre. Beaucoup de partenaires qui s'approchent à mon projet. Et surtout, j'ai un projet en commun avec un chef d'entreprise pour créer un centre de formation suivi d'un resto solidaire où les anciens détenus ils vont devenir des actionnaires après.
Oui, très bien, oui, oui. Vous avez beaucoup de projets, oui.
Bah, j'ai beaucoup de projets parce que voilà, j'ai commencé... J'ai un vécu au milieu carcéral, j'ai vu la misère des gens là-bas. La réinsertion, c'est une grosse problématique. Les conseillers d'insertion et de probation, ils font du super travail. L'administration pénitentiaire aussi, mais ils ne peuvent pas insérer tout le monde non plus. Donc voilà, s'il y a des entreprises et s'il y a des personnes qui veulent donner un coup de main, ils sont tous bienvenus.
Oui. Et le prix de ce jeu, remise de peine supplémentaire, qui est produit 100% localement en Bretagne?
Le prix, il est de 49 euros.
D'accord. Et on peut le trouver facilement, comme on l'a vu. Avant de conclure cette émission, Arbi et Madej, un dernier mot pour peut-être un conseil qu'on peut donner à des parents pour que leurs enfants ne tombent pas dans la délinquance ou s'ils y sont déjà pour les aider.
Ah, vous touchez à un sujet sensible. La dernière intervention que j'ai effectuée, c'était justement dans une maison de quartier avec les parents.
Oui.
Avec les parents, j'ai insisté de faire cette intervention gratuitement. Je me suis dit, voilà, moi d'un côté, les éducateurs, les professeurs de l'autre côté et les parents de l'autre côté. Donc, s'il y a trois messages qui vont entrer dans la tête d'un jeune pour qu'il puisse changer de chemin, donc tout est positif. Sincèrement, il n'y a que la prévention que ça marche.
Oui, c'est la prévention pour vous.
Je constate cette prise de conscience immédiate. Je constate aussi que les gamins, ils sont là, ils pensent que la prison, c'est le club med, par contre.
Oui, alors que non, vous êtes là pour leur expliquer le contraire.
Bien sûr. Donc, le message à passer à ces gamins-là, fais des études, fais du sport, fais de la réussite, garantie.
Oui, oui. Merci Arbi Madej, merci à vous d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez ce jeu remise de peine supplémentaire qui est produit en Bretagne pour prévenir la délinquance. Vous intervenez, vous faites de la sensibilisation auprès des jeunes. Vous faites un très beau travail et vous êtes lauréat du prix Rebond de Créadi. On en a parlé tout au long de cette émission. Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.